Chapitre 48. Même si ce soir je ne perçois plus aucune défiance dans le regard de Roman, celui-ci n'a rien perdu de son intensité. Après avoir pris des nouvelles de ma santé et m'avoir interrogé sur ma façon de gérer la situation, elle note sans détour. Il n'y a donc que Darshan et moi pour savoir que tu es malade.
Exact.
Lui, parce qu'il me l'a annoncé. Et toi, parce que tu l'as deviné. Elle soupire. Je n'en suis pas fier. J'étais tellement en colère ce soir-là. Tu avais tes raisons. Lorsque nous sommes arrivés ensemble au petit resto italien qui lui sert de quartier général, Roman a fait la bise à Gianni. Il m'a serré la main avec un vrai sourire. Plus rien à cacher. Il n'y a toujours pas grand monde dans son établissement. Il est vrai que nous sommes venus tôt pour ne pas faire veiller Matisse au-delà du raisonnable. Le fils de Roman et son copain d'école qui habite au même étage sont installés un peu plus loin, trop heureux d'être considérés comme des grands capables d'avoir leur propre table. Gianni garde un œil sur eux. Il leur a préparé deux plâtrés de spaghettis bolognaise avec lesquels ils sont en train de se repeindre le visage, le cou, les cheveux et accessoirement de se nourrir. Revoir la bande au dîner de Daphné m'a fait très plaisir, reprend Roman. Je te remercie de m'avoir invité. Tout le monde était heureux de te retrouver. Tu as eu raison d'insister pour que je vienne. Ça m'a fait du bien de sortir, de quitter mon cloaque. Ces visages, ces voix, après si longtemps, c'était bizarre. Constater ce que nous sommes devenus et la façon dont notre horizon s'est parfois rétréci. Je ne réponds pas. Les rires des deux enfants déchaînés se chargent de meubler le silence. Elle jette un œil vers eux, puis revient à nous. J'ai trouvé sympa que tu t'occupes de tout. C'était généreux. J'en avais envie. Tu dois pourtant avoir d'autres soucis en tête. Je refuse de passer mes journées à attendre que ma santé se dégrade. M'occuper des autres me permet de moins ruminer ce qui m'arrive. Tu y as mis davantage de cœur que quelqu'un qui cherche simplement à se distraire. Je la regarde franchement. À toi, je peux le dire, je commence à tout faire comme si c'était la dernière fois. Elle baisse les yeux sur son assiette et s'enquiert. T'arrive-t-il de penser à ta propre mort? Un rire nerveux m'échappe. Ma réaction lui fait prendre conscience de la portée de sa question.
Pardon, je n'aurais pas dû te demander ça, s'excuse-t-elle. C'est horrible. Je suis désolé, je ne voulais pas.
Les vraies questions ne sont jamais déplacées. Je marque une pause. Pour être honnête, ce n'est pas tant la mort qui m'obsède que le peu que je vais pouvoir faire avant. Comme en philo au bac, je vais devoir faire des impasses. Sauf que là, beaucoup de sujets m'intéressent. Je réfléchis énormément à ce qui compte, à ce que je veux encore et surtout avec qui. Mais ma nature me pousse quand même à me documenter. Que veux-tu dire? Dans quelle colonne statistique mon cas va-t-il finir? Roman est dubitative.
Ça t'aide?
Pas vraiment, mais je me suis aperçu d'un fait surprenant. Sais-tu que la plupart des naissances ont lieu le matin, précisément entre 7h et 11h? Près de 80% d'entre elles surviennent dans ce créneau. Cela se vérifie sous toutes les latitudes pour tous les pays où les données sont disponibles, quelle que soit la saison.
Étonnant.
J'ai cherché une explication rationnelle, mais je n'en ai pas trouvé. Cela ne se justifie même pas par l'augmentation des déclenchements d'accouchement programmés, qui s'étalent aussi sur les après-midi. Aucun facteur identifiable. Comme si les gamins avaient simplement hâte de sortir pour profiter du jour.
Il n'y a que toi pour relever ce genre d'informations.
Par contre, les décès se répartissent de façon équilibrée sur les 24 heures. Les humains s'éteignent avec une parfaite homogénéité horaire. Peu importe l'âge, le taux d'hospitalisation ou le nombre des accidents qui surviennent davantage le jour et devraient influer sur les résultats. En plein sommeil, en plein travail, la dernière heure arrive n'importe quand.
Étrange, en effet. Ce décalage m'a interpellé. Je me suis interrogé. Je ne parviens pas à croire qu'un phénomène aussi universel puisse être le fruit du seul hasard. J'y ai réfléchi comme un secret qui pourrait révéler une part cachée de ce que nous sommes tous. As-tu trouvé la réponse ? Une hypothèse qui n'a rien de cartésien. Lorsqu'un enfant naît, il n'est pas seul. Sa mère est avec lui, ils sont étroitement liés après des mois de gestation. Il a son soutien, son appui. Elle l'attend, souvent avec son père. C'est un rendez-vous. Pas faux. À l'inverse, on meurt seul. Même entouré, c'est une histoire intime. Personne ne décide du moment ultime à notre place. C'est une affaire entre notre corps et notre esprit. On tient ou on lâche, cela ne dépend que de nous. Mourir n'est pas un rendez-vous. Si un individu est convaincu que l'aube qui vient ne vaut pas la peine d'être vécue, pas une autre âme ne le fera changer d'avis. Romane reste silencieuse. Timidement, elle pose sa main sur la mienne. Après un moment, elle murmure. Je ne sais pas comment je réagirais à ta place. Certainement pas avec autant de philosophie. Un éclat de rire de son fils nous interrompt. Une joie tellement explosive qu'elle n'annonce rien de bon, même si ce qu'il a provoqué s'est produit sur une surface lavable. Romane jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je n'ai personne à regarder comme elle le fait à cet instant. « Mathis !» tonne-t-elle. « Les spaghettis, c'est dans la bouche, pas au plafond !» Gianni se précipite pour intervenir. Romane a du mal à garder son sérieux devant le spectacle des deux gamins qui se sont fait des perruques avec leurs pattes. Je retire doucement ma main. Je ne suis même pas certain qu'elle s'en soit rendue compte. Sans lâcher son fils des yeux, elle murmure. S'il devait m'arriver quelque chose, c'est pour lui que je m'inquiéterais. Sa vie compte plus que la mienne. Je te comprends. C'est pour cela que j'insiste, Romane. Laisse-moi régler tes problèmes de loyer. Hors de question. Tu préfères que le fisc empoche tout à ma disparition ? Il n'y a aucune raison que tu me fasses la charité. Il n'est pas question de ça. Dans ce genre de situation, Darshan utilise des paraboles. J'aime assez. Prenons un exemple. Un type est en train de mourir dans le désert. Il lui reste un peu d'eau dans sa gourde. Il l'attend à quelqu'un qui souffre de la chaleur. Crois-tu vraiment que ce dernier doive refuser ? Pour quelle bonne raison le ferait-il ? Des principes ? L'orgueil ? Les deux sont inutiles. Moi, si quelqu'un venait m'offrir la solution à mon problème, j'accepterais sans hésiter. Le but, c'est de s'en sortir. C'est gentil, mais je vais me débrouiller. C'est toi qui décides. J'assume ma vie, en attendant mieux. C'est vis-à-vis de lui que je m'en veux. Elle me désigne Mathis d'un mouvement du menton. Il est à l'âge où il forge sa vision du monde. Je devrais lui donner confiance, lui offrir une image du futur qui l'encourage à y croire. Or, il me voit tous les jours me débattre dans des spirales d'emmerde. Tu te rends compte ? C'est son anniversaire samedi, et tout ce qu'il aura de plus que les autres jours, ce sont 7 bougies sur un gâteau au chocolat préparé comme je peux. Je crois que ceux du supermarché sont meilleurs. C'est son anniversaire ce samedi ? Oui, pauvre gosse. Il t'a demandé un cadeau ? Même pas. À 7 ans, il sait déjà ce que fauché veut dire. À part ses super-héros, mon bout de chou n'a même plus de rêve. Ça me mine. Ce n'est pas foirer ma vie qui m'en folle. C'est lui abîmer la sienne. Le bout de chou vient de cracher ses spaghettis partout tellement il rigole. Son pote en a pris plein la figure. Gianni ne contrôle plus du tout la situation. À voir Mathis rire à gorge déployée, je ne suis pas certain qu'il ait perdu l'inestimable élan que la vie offre aux débutants.